Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Pénaranda, Mathilde Wagman, Hassan Mbechour, Virginie Mourtet, nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin. La nuit rêvée de Charlotte Hellman. Bonsoir Charlotte Hellman.
Bonsoir Philippe Garbi.
Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez des premières lignes du roman de Vladimir Nabokov, Ada. Non, ça tombe bien, je voulais lire. Toutes les familles heureuses sont plus ou moins différentes, toutes les familles malheureuses se ressemblent plus ou moins. Alors cette déclaration, c'est toujours Nabokov qui parle, cette déclaration placée par un grand auteur russe en tête d'un célèbre roman, Anna Arkadievitch Karenina, transfigurée en anglais par R.G. Stonelower, Mount Tabor Press, 1880, n'a qu'un rapport fort éloigné avec le récit auquel nous convions notre lecteur, etc. Fin de la citation, fin donc des premières lignes du roman de Vladimir Nabokov, Ada. Et Vladimir Nabokov s'amuse dès le début de ce roman parce que la citation est fausse ou inversée. La formule de Tolstoï, c'est « toutes les familles heureuses se ressemblent et non pas sont plus ou moins différentes, mais chaque famille malheureuse l'est à sa façon. » Très bien. Et non pas toutes les familles malheureuses se ressemblent plus ou moins. Alors je me demande ce que vous auriez fait, Charlotte Hellman, de cette formule, s'il avait fallu l'employer, en tout cas les termes famille, bonheur, malheur, ressemblance, dissemblance, etc. Parce que Glissé mortel, que vous publiez chez Philippe Ray, n'est pas un roman, bien sûr, mais c'est un récit. Sauf que c'est en fait un très beau roman familial, très beau, très très douloureux parfois. Quel roman familial et quel formidable roman donc. Alors, famille heureuse, famille malheureuse, vous ne vous êtes peut-être pas posé la question en ces termes. Famille originale pour le moins.
Très originale puisqu'il s'agit d'une famille avec recomposée, de nos jours, on aurait dit une famille moderne, peut-être une tribu, mais c'est pas tout à fait le cas. Il y a qu'un seul enfant, il y a deux mères et il y a un homme au centre qui essaye de jouer les équilibristes entre les deux femmes de sa vie.
Alors, ce roman, ce récit familial, il a fallu que... Vous ne l'avez pas inventé, bien entendu, Charlotte Hellman. C'est des récits de récits, mais ça n'a pas suffi. Il a fallu se plonger dans les archives, comme on aime faire ici, dans les Nuits de France Culture. Vous, les archives, c'était de la correspondance, beaucoup, mais c'était aussi des cassettes enregistrées par une grand-mère. Alors, on va tout de suite dire quand même que ce livre Glissé mortel, donc publié chez Philippe Ray, met en scène avant tout, et enfin, en tout cas, en premier lieu, un homme, vous l'avez dit, et que c'est un homme connu. Après, les femmes, les premières femmes sont moins connues. Mais l'homme, alors racontez.
L'homme est un peintre célèbre, Paul Signac, connu comme l'un des inventeurs du, on dit, néo-impressionnisme. Paul Signac est donc un peintre qui s'inscrit entre la fin de l'impressionnisme et les avant-gardes. C'est un homme de son temps. Il est peintre, avant tout, bien sûr, après avoir un peu hésité à être écrivain, parce qu'il a des vrais talents d'écriture. C'est un autodidacte. Il a été un petit peu dans l'atelier d'Émile Blin, mais très vite, il s'est fait sa propre religion. Il a suivi les conseils de Monet. C'est un homme qui a été aimé. Ça, je crois que c'est important de le dire parce que c'est quelqu'un qui est épanoui. On dirait aujourd'hui qu'il est bien dans ses baskets. Il a reçu l'amour maternel, indispensable. Il a reçu les conseils paternels. Son père est mort quand il était très jeune. Il a été élevé par une mère très aimante et un grand-père sévère mais affectueux. La jeunesse de Signac me fait un tout petit peu penser à celle de Jean-Paul Sartre avec ses repères comme ça, avec un grand-père très, très présent et puis une mère très aimante et très admirative. Donc, porté par ça, c'est un enfant de la bourgeoisie, une bourgeoisie commerçante tout à fait... à l'aise, sans être richissime, et porté par tout ça, porté par cet amour familial, et il va se lancer dans la peinture sans difficulté majeure. Très vite, on l'encourage, on applaudit ses efforts. Pas de crise familiale, tout va bien, il ne passe pas son bac, on s'inquiète pas, il dépense l'argent qu'on lui donne, il va chez le père Tanguy, il achète un tableau, on lui dit bon, très bien, bon, on n'est pas non plus fou de bonheur, mais enfin, enfin, on le laisse faire.
Oui, donc une famille qui ne dit pas à son enfant si tu veux devenir artiste, je te renie.
Pas du tout. Ouais. On est tout à fait tolérant.
Ça commence bien.
Ça commence plutôt bien. Par ailleurs, donc peintre, bien sûr. Il s'inscrit dans la mouvance impressionniste. Il suit Monet et Guillaumin, qui sont ses premiers maîtres. Et puis il va faire une rencontre qui va être absolument décisive pour lui, qui est celle de Seurat, de Georges Seurat, ce peintre qui bouleverse tous les codes puisqu'il invente cette nouvelle technique néo-impressionniste au moment où il peint la Grande Jatte. Et c'est le choc pour nombre de ses contemporains. Pour Fénéon, dont on reparlera peut-être, et pour Signac, grand bouleversement, et Signac va devenir le suiveur et bientôt l'évangéliste de cette parole néo-impressionniste qu'il va vouloir diffuser avec la ferveur des convertis.
Donc il peint où à Paris? Il a un atelier? On lui paye un atelier, cette famille?
Alors il se débrouille, on lui paye, non, il trouve quelque chose au début. Il est boulevard de Clichy, il est voisin de Seurat, justement, ils se rendent des visites quotidiennes pour parler et comparer leurs travaux. Je me demande quand même si ça devait pas ressembler un tout petit peu à des monologues, parce que si Seurat était un grand taiseux et Signac est plutôt quelqu'un de très disert, très solaire, très bavard. Donc je me demande si c'était vraiment des échanges tout à fait réciproque. Et puis de là, ils partent peindre à Asnières, à Clichy, etc. Il va aussi faire la rencontre à ce moment-là de Van Gogh. Avec Van Gogh, ils ont de grandes discussions, justement, ils font de grandes marches pendant lesquelles Van Gogh polychrome tous les passants avec ses pinceaux pleins de peinture. Enfin, tout ça est très très joyeux. Effectivement, vous avez raison. Il va découvrir plusieurs endroits. Il découvre la Normandie, la Bretagne et puis le Midi. Puisque quand il va rendre visite justement à Van Gogh à Arles, il va faire un petit tour par Cassis et par le Midi. Et là, il va être ébloui par la lumière du Midi. Mais voilà, il ne s'aventure pas plus loin.
Ça sera pour plus tard.
Ce sera pour un peu plus tard. Un peu plus tard, c'est quelques années après, à la mort de Seurat, qui est quand même un énorme choc, puisque tout d'un coup, cet homme jeune disparaît foudroyé et que Signac se retrouve finalement en première ligne de cette bataille du néo-impressionnisme. Il faut imaginer quand même qu'à ce moment-là, les avant-gardes et sa bataille ferme, hein, c'est des discussions et c'est très difficile pour lui de se retrouver dans cette posture. Et pour plusieurs raisons, il décide de partir pour le Midi et de s'installer à Saint-Tropez.
Oui, alors ça, c'est la grande découverte. Enfin, dès qu'on parle de Saint-Tropez, on apprend que bon, bah, c'est un petit port de pêche tranquille jusqu'à l'heure. Et puis un jour, quelqu'un arrive. C'est un peintre, c'est un Parisien. Et il arrive sur son yacht. Hein,
sur son bateau.
Un
beau bateau. Il a toujours été passionné de bateaux. Signac a gagné nombre de régates. C'était un vrai marin. Et puis non seulement il savait naviguer, mais il savait construire les bateaux. Signac est quelqu'un de très physique. C'est à la fois un peintre, un intellectuel,
un homme engagé.
On y reviendra, mais physiquement, c'est quelqu'un qui se pose là, quoi. Il est sportif. Il aime marcher. Il marche. Quand il a 60 ans, il déplore de ne plus pouvoir marcher 6 à 7 heures par jour. Il trouve que c'est absolument anormal.
Il fait beaucoup de vélo.
Et alors le bateau, évidemment, et la voiture. Il a été le second permis de conduire du Var en 1900, et dès qu'il a pu conduire des voitures, ça a été un défilé de voitures. Donc, il arrive dans le port, il manœuvre très très bien, il a préparé son arrivée, hein, il n'a pas déboulé comme ça. Il a correspondu avec son ami Cross qui s'est installé au Lavandou, qui est un autre peintre de cette mouvance néo-impressionniste. Cross lui dit « Pour moi, Saint-Tropez, c'est pas pour moi, mais toi, ça va te plaire. » Alors, il y va et il entre dans le port, vent arrière, et les vieux loups de mer... Il faut imaginer, Saint-Tropez, à l'époque, il y a trois mecs dans le port. Les vieux loups de mer du coin l'attendent au tournant, et ils rendent les armes puisqu'ils voient que ce jeune homme manœuvre parfaitement son bateau et qu'il arrive à rentrer dans le port Sans aucun problème.
Donc il est adoubé.
Il est adoubé tout de suite.
C'est en quelle année à peu près, Charles
1892. Mmh. Il arrive au printemps 1892 et là c'est l'émerveillement absolu. Il est ébloui par la lumière, il est ébloui par les odeurs, la nature. Il faut dire que Saint-Tropez, bon maintenant on en a tellement parlé et reparlé.
Mais et on va en parler dans la nuit puisqu'on va pouvoir entendre une émission d'Emmanuel Laurentin consacrée à la fabrique de Saint-Tropez, la fabrique de l'histoire Saint-Tropez. Du mythe à la marque, mais ça c'est pour plus tard dans la nuit. Donc en 1892, en effet, c'est un petit port de
alors,
pêche.
92,
tranquille. C'est le lieu pour un peintre.
Il n'y a eu ni Bardot, ni Sempé, ni Sagan, ni personne. Et c'est le lieu idéal pour un peintre. C'est un havre de paix. On voit les morts, les collines des morts au loin. Le ciel est rose le soir. Il a tout d'un coup des inspirations qui lui viennent à tout bout de champ, dessiner les peint, dessiner la mer, dessiner les couchers de soleil, dessiner les crépuscules, les orages, la citadelle. Et donc c'est là, il va peindre des toiles absolument magnifiques, enfin en tout cas, à mon humble avis. Des toiles, parce que moi j'aime pas tout, mais ces toiles tropéziennes sont vraiment superbes et on sent à la fois qu'il y a la maîtrise dont il sait faire preuve, parce que c'est quelqu'un qui se contrôle, Signac, il est toujours dans le contrôle. On sent cette maîtrise, mais alors une maîtrise en même temps qui baisse les bras devant son émerveillement. Il est vraiment très heureux dans cet endroit.
Alors, il est très heureux, Paul Signac, on est ravis pour lui, parce que c'est le personnage central, en tout cas pas central, mais de départ de votre livre Glissé mortel, Charlotte Hellmann. Mais vous n'avez pas écrit une biographie sur un peintre, fut-il votre arrière-grand-père. Donc, vous avez écrit un récit familial, et comment ce récit familial, j'ai dit qu'il y avait un homme connu, c'est Paul Signac, donc, et puis il y avait deux femmes, l'une son épouse, l'autre qui n'était pas son épouse, mais elles qui sont moins connues, l'une était peintre pourtant. Comment sont-elles entrées dans sa vie et pourquoi donc tout cela est-il devenu un récit quand même original, on va dire, pour garder un mot pas très fort.
Il a eu deux femmes dans sa vie et c'est une histoire que moi j'ai toujours entendue raconter par ma mère qui était la petite fille de la seconde femme.
Françoise
Cachin, ma mère. Et au fond, moi, j'avais toujours entendu dire, il a eu une fille avec sa maîtresse, qui est devenue sa seconde épouse de fait. Enfin, c'est-à-dire qu'il a quitté son épouse pour vivre avec une autre femme.
Jusqu'alors,
scénario plus ou moins classique. Il a refusé de divorcer, ou en tout cas, il n'a pas divorcé. Et l'enfant de sa compagne a été adopté par la première épouse.
Voilà.
Donc moi, c'est une histoire que j'ai toujours entendue raconter dans la famille comme tout à fait normale. Très bien. Elles ont été formidables, ces deux femmes. Chapitre clos. Et puis je me suis aperçue que quand je la racontais à des amis ou à des gens qui s'intéressaient à Signac, les gens me disaient mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que cette histoire, enfin. Et je me suis dit, mais au fond, je me suis jamais posé la question. Comment ce processus a pu se construire? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et j'avais toutes les sources à ma disposition, en tout cas une grande partie des sources, puisque lorsque Signac quitte Berthe, sa première femme, après 28 ans de vie commune tout de même, dont 23 de mariage, il la quitte certes, mais il part pour d'abord pas très loin physiquement, et puis surtout il lui écrit tous les jours.
9000 lettres.
Ben, ça revient à peu près à ça, je crois. J'ai dit à peu près, parce que sur 25 ans, une lettre par jour, c'est à peu près ça. Et c'est vraiment une lettre par jour. Ce qui a été très compliqué, c'est qu'aucune lettre n'était datée et qu'il a fallu reconstituer un puzzle vraiment impressionnant et par moments très décourageant, puisque je pouvais aucun moyen de savoir si on était en 25, en 32, en 18 ou à première vue, en tout cas, du papier, ou en 12.
Enfin, il parle du Tour de France, par exemple.
Alors, il parle du Tour de France, voilà. Il parle de la politique, il parle de la météo, il parle de ce qu'il peint. Alors, quand il parle de ce qu'il peint, là, hop, on peut tout de suite rattacher à une date.
Ah, oui. Quand il parle faut-il du connaître tour... encore merveilleusement l'œuvre, ce qui est votre cas, j'espère et j'imagine.
Ben, on se repère petit à petit, hein, on s'accroche aux branches, on regarde. Le Tour de France, bon bah en fait, comme il en parle beaucoup, c'est vrai qu'une fois qu'on a téléchargé les Tours de France de 1912 à 1935, et ben on peut s'amuser. Il parle de la politique et ça c'est très très utile parce que comme il aborde tous les sujets, on se raccroche au gouvernement, au ministère, aux lois, à la guerre bien sûr, puisque la guerre va occuper quand même 4 ans de sa vie. Donc avec tout ça, on finit par y arriver. Et puis les papiers à lettres, des différents endroits bien sûr, les entêtes papiers.
Alors, il y a une question, Charlotte Hellman, que tout le monde doit se poser quand même. C'est que, finalement, cette histoire, vous auriez pu la laisser comme ça dans la famille. Après tout, mon arrière-grand-père a fait un enfant à une femme et puis l'épouse a adopté. C'est déjà extravagant. Mais enfin, après, il y a eu toute cette espèce de vie commune qui n'était pas une vie commune, mais qui était une vie commune pour la fille Ginette, parce qu'elle allait aussi bien chez sa fausse grand-mère, mais ça qui est
sa fausse mère.
Ah oui, je me trompe un peu dans les sa vraie mère. Vous écrivez des décennies après une histoire familiale. On a l'impression que vous préférez quand même celle qui n'est pas votre vraie arrière-grand-mère.
Je suis pas tout à fait d'accord. J'ai essayé de rétablir un équilibre. J'ai vraiment essayé. Alors j'y suis probablement pas arrivé puisque votre diagnostic est celui-ci, mais j'ai essayé.
Vous en aurez 2000 de diagnostics différents, donc.
J'ai essayé de comprendre l'une et l'autre dans leur position qui sont absolument impossibles à tenir l'une comme à l'autre. Donc, je crois que vraiment, entre celle qui est abandonnée et qui finit par adopter un enfant de la femme pour laquelle on a été abandonné et celle qui quitte mari et enfant pour vivre avec un homme sans avoir aucune garantie et laisser son enfant adopté par la première femme.
Parce qu'elle avait déjà des enfants. La maîtresse avait déjà des enfants. C'était des amis du couple, d'ailleurs.
Voilà, c'était le couple.
Les deux couples étaient très amis.
C'était le scénario, la femme d'à côté. Mmh. Le couple ami avec qui on part en vacances et avec qui on s'entend très bien. Je crois que vraiment, l'une et l'autre, l'une comme l'autre, sont à égalité dans la dose de souffrance et de sacrifice qu'elles se sont imposées, ou qu'on leur a imposées, ou que les circonstances leur ont imposé. Pour autant, j'ai essayé de maintenir un équilibre, mais bon, j'ai pas dû y arriver complètement. Je me suis imaginée que la seconde, donc celle qui est mon arrière-grand-mère, qu'elle était une vraie séductrice. Peut-être que je me suis totalement trompée. Là, j'ai été obligée de fantasmer un peu et de romancer un petit peu parce qu'il y a des choses qu'on doit imaginer. Donc, c'est ça qui est formidable aussi avec l'histoire et le passé, c'est qu'au fond, quelle version est la bonne ? On ne le saura probablement jamais. Je crois que c'est une femme extrêmement séduisante. Je crois qu'elle est fascinée par cet homme et qu'elle a envie de l'avoir pour elle.
Ça, elle est peintre aussi.
Elle est peintre aussi. Alors c'est vrai que c'est une situation qui est propice à la séduction quand on est une jeune peintre et qu'on demande des conseils à un aîné. Je crois qu'ils ont une énorme complicité intellectuelle et artistique. Et puis qu'elle était assez irrésistible, je pense, physiquement. En plus, elle était très très mignonne. Voilà, tout un ensemble de choses qui font que j'ai imaginé une démarche plus volontariste de sa part à elle, ce qui évidemment me fait pencher dans un rôle qui me donne envie de consoler un peu la pauvre femme abandonnée, mais au fond
vous êtes tendre avec elle.
Oui, je j'ai de la peine pour la pauvre Berthe qui est quand même larguée après 25 ans puis c'est un scénario tellement classique en même temps, la femme qui a accompagné les années de galère et puis au moment où le mari entre dans la lumière et dans l'histoire, tout d'un coup il part avec une femme plus jeune, sauf à une nuance près, c'est qu'il y a une chose qui manquait beaucoup à cet homme si comblé par ailleurs. Il lui manquait un enfant et il en avait très envie. Et effectivement, il va y avoir un enfant à la suite de cette liaison.
dont le prénom est...
Dont le prénom est Ginette.
Et cette Ginette, on l'entendra plus tard dans la nuit, Charlotte Hellman, puisqu'on va entendre une émission de Georges Charansol qui, en 1963, rendait hommage à Paul Signac, parce qu'il y avait une exposition, c'était dans l'émission L'Art Vivant, sur la chaîne nationale, et il recevait, entre autres, deux femmes, votre grand-mère, donc Ginette, et puis votre mère, Françoise Cachin, qui, beaucoup plus tard, allait devenir présidente d'Orsay, et puis, comment ça s'appelle, directrice
de tous les musées de France.
On écoutera plus tard, et puis on en parlera plus tard dans notre deuxième entretien, parce que les auditeurs viendront juste d'entendre grand-mère et mère, et je pense que c'est quand même émouvant pour vous, Charlotte Hellman, après cette écriture, enfin, d'abord parce que c'est familial, et puis après l'écriture de ce glisser mortel. Vous avez choisi quand même, donc, parce qu'on ne va pas tout raconter du livre, on ne va pas dire pourquoi l'une adopte l'enfant de l'autre. Il y a d'excellentes raisons ou des raisons d'héritage, de prolongation de l'œuvre. Paul Signac veut évidemment que sa fille existe. Et à cette époque-là, quand on est hors mariage, eh bien, on n'existe pas. On vient un petit peu donc à votre nuit rêvée. On abandonne quelques instants glisser mortel, mais on ne va pas l'abandonner du tout d'ailleurs, puisque vous avez voulu faire entendre Romain Rolland. C'est un ami de la famille.
Romain Rolland, c'est quelqu'un dont Signac va se rapprocher très fortement pendant la guerre. Signac est un homme profondément pacifiste, je dirais même qu'il est l'un des piliers du pacifisme d'avant-guerre, en tout cas, puisqu'il fait partie de cette génération cosmopolite qui entretient des liens avec des artistes et des marchands et des amis, des intellectuels belges, allemands. Sur le plan politique, c'est quelqu'un qui est marqué à gauche.
Il a été Dreyfusard.
Il a été l'un des trois premiers signataires de la pétition pour Dreyfus. C'est quelqu'un qui est proche de l'anarchisme. Alors un anarchisme doux en ce qui le concerne. Il ne va pas poser de bombes, mais un anarchisme intellectuel et qui va se traduire dans un certain nombre d'œuvres, notamment un tableau qui s'appelle Le temps d'harmonie, mais qui devait s'appeler Le temps d'anarchie. Donc c'est quelqu'un pour qui la guerre est un non-sens absolu. Je parle de la guerre de 14, bien entendu. La guerre va être un écroulement pour lui et il va à ce moment-là s'éloigner ou même se brouiller avec certains de ses amis dont il voit avec mélancolie qu'ils abandonnent la cause pacifiste. Je pense en particulier au poète Verhaeren dont il a été très proche et dont il voit tout d'un coup qu'il devient le chantre de la Belgique en guerre, etc. Donc c'est très dur pour lui. Il se sent très isolé dans sa posture de pacifiste jusqu'au boutiste, parce qu'au moment de l'union sacrée, évidemment, tout d'un coup, les gens comme lui passent pour des traîtres. Et quelqu'un va tout d'un coup devenir un allié objectif, comme on dirait en politique, mais aussi avec lequel il va avoir une grande complicité intellectuelle, c'est Romain Rolland. Romain Rolland qui écrit Au-dessus de la mêlée, qui est pour Signac une lueur dans la nuit.
Au milieu de la guerre, enfin en 1915.
En 1915. Et à partir de là, à partir d'au-dessus de la mêlée, Signac et Romain Rolland vont correspondre assidûment, avoir des avis tout à fait semblables, à différentes étapes de la guerre. Je me suis aperçue que, en fait, ça n'est pas d'un bloc. C'est-à-dire qu'on devient de plus en plus pacifiste et on est de plus en plus radical au fur et à mesure que la guerre avance. C'est-à-dire que même en 17, quand Clémenceau dit « je fais la guerre », des gens comme Romain Rolland et comme Signac sont épouvantés. Alors que 90% des gens se disent « enfin, formidable, il va nous sortir de là ». Et ensuite, cette amitié va perdurer. Et il y aura, si ma mémoire est bonne, à la fin de la guerre, il y a un manifeste pour le maintien du pacifisme ou quelque chose comme ça, dont Signac va être encore le signataire pour appuyer Rolland dans ses positions.
Alors Romain Rolland, donc c'était une déclaration à l'occasion de son 70e anniversaire, c'est enregistré en 1936. Suivra donc La Fabrique de l'Histoire dont on a parlé, Saint-Tropez du mythe à la marque, par Emmanuel Laurentin, Saint-Tropez où il y a le musée de l'Annonciade et où il y a énormément beaucoup de tableaux de Paul Signac qui s'était installé là. D'ailleurs, c'était un des premiers endroits, non? Il était très très proche de ce lieu où est aujourd'hui le musée de l'Annonciade.
Pas extrêmement proche, mais pas loin.
Pas loin.
Et puis ça, donc évidemment à son époque, il n'y a pas de musée, mais Berthe aura à cœur de.
Oui, Berthe, en effet, c'est l'épouse.
Berthe, c'est son épouse légitime, qui sera donc la veuve légitime, et qui aura à cœur d'aider Georges Grammont, qui prépare ce petit musée.
Alors, vous avez cité tout à l'heure Charlotte Hellman Fénéon, Félix Fénéon. Vous avez dit tout à l'heure que Paul Signac n'avait pas jeté de bombes. Fénéon, il aurait peut-être jeté des bombes, enfin. Mais il y a eu un procès, il y a eu des choses comme ça. Je me demande pourquoi j'ai cherché, parce que vous m'avez parlé tout de suite. Ah, Fénéon, c'était un grand ami de Paul Signac. Alors, j'ai cherché comme ça dans les archives de l'INA. Je me suis dit, il va y avoir une vie, une œuvre, des tas d'émissions, anthologie française. Ben non. Alors, mais en revanche, on a quelqu'un qui va lire du Fénéon et qui en lit très bien. Vous allez tout de suite l'identifier.
Profondément dégoûté de sa personne, après la lecture du livre de Samuel Smile, « Connais-toi toi-même », un juge vient de se noyer à Coulonges la Vineuse. Si seulement la lecture de cet excellent ouvrage pouvait se généraliser dans la magistrature. 18 septembre 1892. Joyeux accident de chasse. Rénal, l'ex-ministre, chassant aux environs du Havre en compagnie de quelques autres fripouilles, a flanqué une charge de chevrotine dans la panse d'un nommé d'Arras, général de sa profession. Les nouvelles du blessé sont excellentes, il crèvera. Un bon point pour Rénal. Il a voulu sans doute racheter son sale passé de politicien. Mieux vaut tard que jamais. Statistiques médicales. 53 327 cas de maladies vénériennes dans l'armée française pour l'année 1890. Dans cette course au bubon, il était naturel que les troupes d'élite arrivassent premières. Et en effet, voici en tête de la liste les sapeurs-pompiers et les gardes municipaux. Décidément, ceux-ci n'ont pas des cocardes qu'à leur shako. Pourquoi, modifiant un peu la devise consacrée, ne broderait-on pas « syphilis et patrie » sur les drapeaux régimentaires de cette armée qui purule ?
Claude Pieplu, lisant 10 ans du Félix Fénéon, c'est les nouvelles en 3 lignes. C'était dans Matinale, l'émission de Claude Dupont et Jacques Fayet, le 7 juin 1982 sur France Culture, bien entendu. Fénéon.
Fénéon, tout Fénéon est là, je trouve, dans ces nouvelles en 3 lignes qui sont à la fois extrêmement cruelles et distanciées. Et Fénéon, c'est quelqu'un qui a de multiples entrées, historien d'art, journaliste, homme politique, collectionneur, directeur de galerie et grand ami de Signac, entre autres. En effet, vous disiez tout à l'heure que Fénéon avait posé une bombe. Un doute persiste. Ce qui est certain, c'est que pour lui, l'anarchisme, c'est pas seulement des mots, c'est de l'action. Et qu'on s'est souvent demandé si c'était lui qui avait posé une bombe dans le restaurant dont le nom m'échappe soudain, mais qui était juste devant le Sénat, en haut de la rue de Tournon, et qui a été arrêté au moment du fameux procès des 30, et qui s'est défendu lui-même avec une telle éloquence.
Il a refusé l'avocat.
Il a refusé l'avocat. Il s'est défendu lui-même si bien qu'il a été acquitté. Bon, il a quand même dû démissionner du ministère de la guerre où sa présence faisait un peu désordre malgré tout. Et puis ensuite, il s'est un peu rangé des voitures et il a travaillé. Bon, il travaillait la rue Blanche. Et puis ensuite, il a été directeur de la galerie Bernheim. Fénéon.
On ne peut que recommander la lecture de Fénéon. En tout cas, enfin, il suffit d'entendre Pieplu lire quelques extraits comme ça de son œuvre pour comprendre.
Et on comprend que Fénéon.
La drôlerie et l'agressivité parfois de l'écrivain.
Oui, c'est très étonnant parce que, comme beaucoup de gens dont la plume est très acérée, sa personne était d'une courtoisie extrême et d'une discrétion totale. C'était un dandy dans son allure. D'ailleurs, Signac en a fait un portrait qui est resté très célèbre, où on le voit tenant une fleur d'hibiscus et à l'arrière-plan un kaléidoscope de couleurs, qui est une sorte de manifeste néo-impressionniste et japonisant à la fois. Cette image d'un Fénéon d'un fainéant esthète, dandy, est une autre facette de la personnalité de cet homme qui, par ailleurs, est politiquement très engagé, on l'a vu, du côté des plus faibles, n'hésitant pas à se battre avec les mots et avec les armes, et qui est aussi un grand découvreur. Et c'est peut-être pour ça que vous avez eu du mal à trouver des archives, parce que finalement, Fainéant est avant tout un intermédiaire. C'est quelqu'un qui veut mettre en rapport les artistes et les écrivains et les lecteurs, qui a à cœur de faire redécouvrir des poètes, des peintres. Et au fond, c'est quelqu'un qui a envie d'être un intermédiaire, je crois.
Une vie, une œuvre sur Félix Fainéant me semble essentielle. Il faudra en parler à la direction de France Culture, Charlotte Hellman, on va proposer ça. Alors, donc, on revient un petit peu et on revient au déroulé de votre nuit rêvée. On reviendra plus tard sur Glissé mortel. Glissé mortel, c'est le début d'un quatrain de Pierre Charles Leroy,
dont je crois, à ma connaissance, c'est un des seuls poèmes connus de ce monsieur, et que j'ai toujours entendu ma mère me réciter avec émerveillement.
Par cœur, elle.
Par cœur.
Tandis que là, vous êtes en train de le lire.
Je ne suis pas très sûre de moi, donc je préfère toujours vérifier. Sur un mince cristal, l'hiver conduit leurs pas, le précipice est sous la glace, telle est de vos plaisirs la légère surface, glissez mortel, n'appuyez pas.
C'est très beau, glissez mortel, n'appuyez pas.
Et j'aimais beaucoup ce poème, et au fond, je me suis dit qu'il convenait assez bien à la vie amoureuse de Signac, et à cette façon de glisser, de faire en sorte, sans appuyer, de faire passer les choses, sans... D'abord en évitant les conflits, parce que c'est un pacifiste avant tout, un pacifiste en politique et à la maison, mais aussi comme s'il avait compris que le secret de la vie, c'était vraiment de pas s'attarder et de glisser pour passer dans la vie sans trop souffrir et sans trop faire souffrir.
C'est un homme de bateau aussi. Donc
c'est un homme qui glisse sur la mer également, c'est vrai, à vélo, et puis qui a réussi à maintenir une harmonie, puisque l'harmonie est quand même un thème très important pour lui, à maintenir une harmonie vaille que vaille, avec beaucoup de difficultés, mais enfin, tout en restant comme ça à la surface pour ne pas trop appuyer. Et au fond, je trouve que c'est une leçon de vie qui est pas mauvaise.
Une leçon de vie, mais aujourd'hui, si vous écrivez ce livre aujourd'hui, Charlotte Hellman, quand même, c'est pourquoi plus aujourd'hui qu'il y a quelques années ?
Je crois que c'est surtout un fait de circonstance. Quand on se retrouve comme ça, avec des archives aussi importantes, et qu'on voit qu'il y en a certaines qui n'ont pas été classées, c'était pas beaucoup le cas, parce qu'elles ont été formidablement bien classées avant que j'arrive là. Mais alors, par deux personnes, par ma mère et puis par Marina Ferretti, qui est aujourd'hui l'expert de l'œuvre, et elles ont travaillé main dans la main pour classer toutes ces archives. Simplement, moi, j'avais un doute toujours sur les... en tout cas, j'avais des questions sur la vie intime de Signac. Et il se trouve que ces archives-là, n'ayant pas été essentielles pour l'histoire de l'art, eh ben ces quelques boîtes-là n'étaient pas classées. Donc, c'est un peu l'occasion qui a fait le larron, c'est que moi, j'ai dû me plonger dans cette histoire et que j'ai eu envie de la comprendre.
Oui, c'est surtout ça. Il y a quand même la vraie raison, c'est l'histoire. Enfin, c'était pas un secret féminin.
C'était pas un secret.
C'est pas ce qu'on sort du placard. Vous avez sorti du placard la correspondance.
Il n'y avait pas de non-dit, il n'y avait pas de secret caché, il n'y avait pas de mensonge, il n'y avait pas d'enfant caché, il n'y avait pas de...
Au contraire.
Pas du tout. En revanche, c'est vrai que quand on se met, mais ça je pense que c'est le propre de tout micro-historien, quand on se plonge dans des sources, on s'aperçoit que, enfin là je vais dire vraiment une phrase très très bateau, mais que la mémoire et l'histoire sont en conflit, et qu'effectivement la mémoire familiale, eh bien elle peut être mensongère, ou en tout cas elle peut être, différente de ce qu'on peut s'imaginer.
Et puis on la raconte à chaque génération à sa façon aussi.
Voilà, on la raconte à sa façon.
Et puis là, quand elle est fixée, en tout cas,
là, maintenant, grâce à vous. Quand on se plonge dans les sources, on s'aperçoit que les choses sont beaucoup plus... parfois très étonnamment différentes de ce qu'on imaginait, et puis plus complexes aussi.
On n'a pas tout dit, et heureusement, sur Glissé mortel, on en parlera plus tard dans la nuit, et Charlotte Tellemann, puisque l'on va donc, après Romain Rolland, après Saint-Tropez, on va pouvoir entendre Patrick Modiano, qui était au micro d'Alain Bosquet en 1971. Il avait écrit alors deux romans. Et puis, cette première partie de votre nuit rêvée se terminera par donc une émission de Georges Charansol, L'art vivant, hommage à Paul Signac. C'était en 1963, et on parlera de cette émission, bien entendu.